Et comme convenu, nous sommes en direct avec le docteur Atman Lorabi, qui est psychiatre, psychothérapeute et secrétaire général de l'Association marocaine de psychiatrie psychodynamique. Docteur Atman Lorabi, bonjour et merci d'être parmi nous aujourd'hui.
Bonjour Karima, bonjour Selma, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la chaîne.
Bonjour à vous docteur, c'est un plaisir de vous avoir donc docteur comme tous les jeudis. Alors c'est un terme qu'on utilise des fois un peu à tort et à travers, le burn-out, pour contextualiser un peu peut-être et pour rapprocher les auditeurs et auditrices du burn-out, pour qu'ils le comprennent plus en quelque sorte. Quand on parle de burn-out, ça veut dire quoi exactement ?
Le burn-out est un syndrome psychologique qui a été défini ou plutôt décrit il y a une cinquantaine d'années à peu près pour initialement rendre compte d'un certain nombre de manifestations émotionnelles, psychiques et même physiques. J'ai des travailleurs qui étaient extrêmement impliqués dans l'aide d'autrui, notamment le personnel médical, paramédical. C'était ça la première description qui correspond en fait au schéma psychologique qu'on pourrait retenir aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est face à un travail ou à des tâches qui nécessitent un grand engagement de notre part, et puis à un certain moment, cet engagement va devenir une espèce de surengagement qui va aboutir au bout d'un certain temps à une espèce d'effondrement sur le plan émotionnel. Et donc, si vous voulez, il y a bien sûr les critères qu'on retient, il y a beaucoup de manifestations, mais si vous voulez, le plus important, c'est vraiment sur le plan émotionnel où on va, la personne va ressentir un affaiblissement psychique et physique, on y reviendra, qui correspondent donc à ce fameux épuisement émotionnel. Il y a l'apparition d'attitudes un petit peu différentes sur le cadre, enfin dans le cadre du travail, ce qu'on appelle la dépersonnalisation. Alors ça se traduit par des attitudes qu'on va avoir de la part des travailleurs, des attitudes très détachées, très impersonnelles, qui vont aboutir à une espèce de cynisme et une perte total d'empathie vis-à-vis des usagers du service, vis-à-vis aussi des éventuels autres collègues. Et avec ceci, il y a une perte du sentiment d'accomplissement personnel au travail. C'est-à-dire que ce sont des phases, quand on parle de burn-out, ce sont des phases où on va énormément se dévaloriser, on va énormément dévaloriser les tâches qu'on réalise, on va se sentir dans l'impasse. Donc ça, si vous voulez, c'est vraiment l'image général du burn-out. Alors, et c'est vraiment quelque chose qu'on décrit en lien avec le travail, en tout cas initialement. Alors, bien sûr, il y a, je dirais, des conditions de travail qui sont favorables à l'apparition de burn-out. C'est notamment, effectivement, les métiers où on va être confronté à des usagers en détresse ou en souffrance, ou à des usagers mécontents. Ou par rapport à la détresse humaine, je parlais des professions médicales, les secours, etc. On va, ou des forces de police aussi, bien évidemment. On va parler, mais c'est pas que ces métiers-là, parce que finalement, on s'est rendu compte avec le temps que ça pouvait atteindre tous les travailleurs qui sont dans un métier de service, ou des fois même pas, parce que on s'est rendu compte qu'il y avait une forte corrélation par rapport à la charge de travail, la quantité de travail qui doit être fournie tous les jours, donc en termes de volume horaire, mais aussi par rapport à des, je dirais, des techniques de management qui sont peut-être, qui peuvent être améliorées. C'est notamment les gens qui travaillent donc ont à accomplir des tâches très complexes avec une très très faible marge de manœuvre, dans le sens où voilà, il n'y a pas le droit à l'erreur. C'est quand les gens vont avoir des objectifs ou des tâches qui sont vraiment mal définies, dans le flou, ou au contraire des tâches trop nombreuses ou des objectifs trop ambitieux et peu réalisables. C'est aussi en termes d'ambiance au niveau du travail, est-ce qu'il y a des conflits interpersonnels, quelle est la qualité de la hiérarchie, quelle est la qualité du soutien de la hiérarchie. C'est aussi le fait d'avoir des injonctions paradoxales par la hiérarchie, le fait qu'on nous demande toujours de faire plus avec moins, pour ne pas tomber dans la caricature. Bref, il y a réellement, effectivement, des facteurs liés à la fois à la personne, son engagement psychologique vis-à-vis du travail, mais aussi je dirais, à la structuration du travail, les conditions du travail, et puis même le contenu du travail.
Et c'est vrai que le burn-out, on a l'impression que les personnes qui en souffrent, d'un côté, ont l'impression, voilà, comme vous disiez, le travail devient presque un automatisme. Ils vont au travail et font leur boulot sans vraiment y mettre leur cœur. Mais en sortant de ce travail, ben, ils culpabilisent presque d'avoir fait, entre guillemets, d'avoir ce sentiment d'avoir fait, entre guillemets, le minimum syndical.
Oui, il y a cet aspect-là, tout en sachant que réellement, quand on parle de burn-out au sens strict du terme, ce sont les personnes qui ne pourront plus réellement, qui ne pourront plus aller au travail, tellement l'affaiblissement, même physique, est important. Et puis, moi, j'aimerais aussi attirer l'attention sur le fait que quelquefois, on peut confondre les syndromes d'épuisement au travail et burn-out au travail. C'est vrai que ça se ressemble énormément, mais l'exemple que vous donnez, c'est vraiment l'épuisement au travail, parce que les capacités sont encore là. Quand on parle de burn-out, étymologiquement, enfin en anglais, ça veut dire le fait de se consumer, vraiment. Donc, il faut imaginer que le sens initial du terme burn-out, c'est vraiment quand on est dans l'effondrement le plus complet et qu'on n'arrive plus du tout à faire face donc à nos tâches. Donc on n'arrive même pas à y aller et à faire semblant, entre guillemets. Donc, et autre chose qui est importante, vous le disiez, par rapport à ce qu'on peut vivre tous les jours, nous tous, c'est que il y a une espèce de double peine, entre guillemets, c'est qu'il y a énormément de symptômes physiques qui vont accompagner cet épuisement émotionnel et cette difficulté face aux tâches à réaliser. Et quand je parle de symptômes physiques, c'est vraiment des choses extrêmement variées. Ça peut être des migraines, des céphalées, des maux de ventre, des malaises, des vertiges, des douleurs lombaires, etc. Donc, ce sont des choses qui vont en plus occasionner une certaine souffrance physique, bien sûr, et assez souvent, avec, pourquoi je disais une double peine, parce que du fait de l'oubli de soi dans le travail, on va aller même pas consulter, ou alors on va pas aller jusqu'au bout des consultations pour isoler déjà, je dirais, ou pour diagnostiquer que ben, c'est peut-être lié justement à un burn-out qui est là, après avoir éliminé des causes physiques, etc., etc. Donc, il y a aussi cette dimension d'aspect physique qui doit nous interpeller, qui doit nous interpeller quant à l'existence d'un burn-out qui ressemble énormément à une dépression en termes de symptômes. C'est-à-dire, on va aussi avoir les autres symptômes physiques, psychiques, genre les troubles du sommeil, la fatigue matinale, les insomnies d'endormissement, les troubles de l'appétit. Tout ça, on peut l'avoir, et il faut justement pouvoir, se donner encore un peu de la priorité face à notre état de santé pour pouvoir aller requérir l'aide. Alors, ça me permet, pourquoi est-ce que je disais de se donner la priorité? Parce que autant on parle du burn-out en termes de structuration du travail, je le disais, et d'engagement au travail, mais aussi, moi, j'aimerais bien aborder un autre aspect, ça nous pose aussi la question du rôle qu'on se donne dans notre vie avec un V majuscule, c'est-à-dire quelle est la place du travail, quelle est la place du reste. Il n'y a pas que le travail dans la vie, et si bien que moi je préfère parler en termes de rôle, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que le burn-out, c'est une maladie c'est un syndrome qui va nous arriver quand notre rôle en tant que travailleur, on va le prendre trop à cœur, au détriment des autres rôles qu'on a dans la vie. Je parle notamment au niveau familial, au niveau social, au niveau amical, ce genre de choses. Et quand je parle de rôle, c'est pas en termes d'obligation, mais plutôt en termes de vecteur d'accomplissement de soi. C'est plutôt un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Et ça, c'est une vraie interrogation sur laquelle on travaille en psychothérapie pour un petit peu redonner du sens aux choses, revoir la priorité excessive qui est accordée au travail comme étant l'un des seuls ou l'un des rares vecteurs d'accomplissement de soi et de réalisation de soi. Bon, ça, on peut se poser la question sur pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là à considérer que le travail est l'unique vecteur d'accomplissement de soi. Mais donc, c'est une véritable interrogation et c'est une Enfin, et c'est de véritables changements à apporter à son quotidien et même à notre sens des priorités qu'il faut opérer pour pouvoir dépasser cela et surtout s'en prémunir pour la suite.
Et docteur Atmal Lorabi, il y a des personnes, donc une fois qu'ils souffrent de burn-out, démissionnent. Est-ce que c'est le seul moyen ?
Alors, j'ai souvent tendance à dire que quand on est en période de détresse psychologique, il faut pas prendre des décisions majeures, parce que il y a beaucoup d'émotionnel et en règle générale, quand on est dans une phase où on est sous une forte charge émotionnelle, on ne raisonne plus très très bien, aussi logiquement qu'on aimerait. Donc la démission, finalement, voilà, c'est une conséquence assez logique s'il n'y a pas de prise en charge. C'est pas ce qu'il y a à faire, parce que il faut pouvoir se reconstruire, il faut pouvoir, parce que vous imaginez bien quelqu'un qui démissionne après une période de, donc au cours d'une période de burn-out, comme je le disais, avec cette espèce de se sentir totalement inutile, dans l'impasse, etc. Et ben c'est pas les meilleures conditions pour aller rechercher du travail par ailleurs et s'engager dans une nouvelle activité professionnelle. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est réellement consulter, parce que alors, bien sûr, il faut initier des soins, mais aussi à partir du moment où notre état de santé ne nous permet plus d'exercer nos tâches, oui, la loi nous donne le droit d'être en congé maladie, ce qu'on appelle en congé maladie. Donc, et là, à ce moment-là, justement, le congé maladie, c'est pas juste pour se reposer, pas du tout, c'est pour se soigner. Et c'est là que la dimension prise en charge médicale et prise en charge psychologique est importante. Prise en charge médicale, eh ben, c'est d'abord s'assurer qu'il n'y a pas un impact au niveau physique et même au niveau mental qui relève d'un traitement médicamenteux, parce qu'il n'est pas rare qu'un burn-out débouche sur une dépression authentique, ça c'est pas du tout rare. Et en termes de psychothérapie, ce sont les éléments dont on discutait, à savoir déjà arriver à se désengager petit à petit du travail par une manœuvre, enfin par quelque chose de volontaire. C'est pas parce qu'on est contraint de se désengager du travail, mais prendre conscience que plus on s'engage au travail, moins on s'engage dans les autres domaines de notre vie, c'est-à-dire familial, amical, sentimental, etc. Donc, arriver à structurer, je dirais, un équilibre en termes de ce que je disais de rôle au pluriel dans notre vie, les multiples rôles que nous endossons, pour arriver justement à tenir la cadence le plus longtemps possible en étant dans de bonnes conditions.
Et justement, docteur, comment faire quand, le travail, après avoir peut-être pris une pause, et même au retour, les personnes, les problèmes sont toujours les mêmes, les supérieurs n'ont peut-être pas forcément compris ou bien n'ont pas pris conscience de la gravité du problème. Comment faire pour justement, une fois de retour au travail après ce congé maladie, et que au final, rien ne change. Nous, peut-être la personne, peut-être qu'elle a fait un traitement, mais qu'au travail, rien ne change.
Oui, au travail, rien ne change, et c'est, je dirais, très souvent la règle, parce que ce sont souvent des environnements qui sont là depuis des années, des équipes qui sont là depuis des années, et puis même pour arriver à faire évoluer les choses, il faut du temps. Le souci réside réellement, pour le burn-out, réside réellement dans le niveau d'engagement de la personne vis-à-vis de son travail et l'attitude qu'elle adopte face aux différentes, je dirais, contrariétés. Il faut, alors là-dedans, il y a beaucoup de choses qu'on travaille, notamment par exemple en termes de troubles anxiété sociale, c'est-à-dire la capacité à s'affirmer, à refuser des choses quand on estime qu'elles sont excessives et qu'on a en droit de les refuser. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans le cadre du travail. C'est ce genre de petites choses qui nous permettent de juguler un petit peu les choses qui viennent de l'extérieur et qui sont adverses et qui sont stressantes et qui nous mènent à une surcharge. Et puis aussi, c'est aussi le fait de comprendre et d'admettre que la vie après le travail et en dehors du travail est tout aussi importante, voire plus, que la vie au sein de l'entreprise, dans l'équipe, etc.
Et enfin, docteur, peut-être des conseils pour les personnes qui nous écoutent, alors qu'ils connaissent quelqu'un de leur famille, donc que ce soit le partenaire ou la partenaire ou un frère, une sœur, peu importe, qui souffre de burn-out. Quel rôle devrait jouer justement cet entourage ?
Encourager la personne à prendre du temps pour soi, encourager la personne à commencer une activité sportive hebdomadaire, régulière. C'est ça, prendre du temps pour soi. Mmh. Encourager la personne à se reconnecter avec ses proches à travers des petites rencontres ou des petits événements dans la mesure du possible. C'est ça qui permet, si vous voulez, pour moi, la chose la plus importante, c'est d'arriver à se décentrer par rapport à la problématique du travail. Parce que souvent, on a, pardonnez-moi l'expression, le nez dans le guidon, et on est juste monopolisé mentalement par ce sujet travail, problème au travail, problème de hiérarchie, etc. Alors que justement, je le dis et je le répète, la vie ne se résume pas qu'au travail. Mmh. Le travail, c'est un sujet, je dirais, de philosophie. Hein, pourquoi devons-nous travailler de la manière avec laquelle on travaille aujourd'hui, avec les horaires qu'on a ? Enfin, y a beaucoup d'interrogations à se poser. Mais voilà, c'est très important de remettre les choses en perspective et de dédramatiser les difficultés au travail. Mais alors, et souvent, ça se passe, comme je le disais, par le recours à des bons moments qui n'ont rien à voir avec le travail, avec des gens qui n'ont rien à voir avec le travail, pour ouvrir cette petite fenêtre sur le champ des possibilités d'épanouissement dans la vie en dehors du travail, quoi.
Eh ben, merci beaucoup, docteur Atman Lorabi. C'est sur ce conseil que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et à jeudi prochain, Inch'Allah, pour un nouveau sujet. Merci beaucoup, docteur.
Au revoir.